Chers amis, Hachem Kihyu, Leorich Kemim, Meshanim Nehemim. Nous sommes dans Parashat Vayechi, Parasha riche et intéressante qu'il faut absolument méditer et réfléchir. Et c'est le Beshem Adonai, on sait Sharon Varet. Dans cette Parasha, il est dit déjà au début, Rachid nous introduit la Parasha en disant qu'elle est stouma, fermée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace entre le paragraphe qui précède et celui-ci. De telle sorte que c'est comme si que les parachutes sont ouvertes. Il y a toujours un espace entre les sujets. Paracha, c'est un paragraphe qui concerne un sujet entier. Et entre les sujets, il y a des espaces. Parfois des petits espaces, parfois des plus grands espaces. C'est ce que nous appelons paracha setouma. Il y a au minimum de quoi écrire 9 lettres, ou Parasha Petucha, où on va à la ligne, on commence au début d'une ligne, donc il y a beaucoup plus que 9 lettres, un plus grand blanc. Et ces blancs-là, nous devons les imaginer de cette manière-là, c'est que Akadosh Baruch Hu parle, il transmet des sujets, des enseignements, mais il ne peut pas parler de manière... continue sans pour il faut mettre une ponctuation pour que ce que celui qui parle soit entendu, il faut qu'il y ait une ponctuation, il faut qu'il s'arrête, qu'il mette un point, une virgule, qu'il reprenne son souffle. Alors Akadosh Baruch Hu peut parler sans reprendre son souffle, certes, mais s'il parle en continu, celui qui entend n'entend rien, ne comprend pas, ne saisit pas. Donc il y a des sujets, des parachiotes, des blancs. Le maître, quand il fait son cours, il s'interrompt, il laisse un blanc, quelques secondes d'arrêt, pour permettre à son auditoire de comprendre, de réfléchir. Il en va de même dans la Torah. Quand je vous coupe, hein, s'arrête pour permettre à Moshe d'assimiler, de comprendre, de maîtriser ce qui a été transmis. Et c'est ce que les Chachamim disent. Et nous apprenons, la Torah écrit des lettres d'encre noire sur du parchemin blanc. Donc c'est ce qui est écrit. Dans les textes, il est dit que c'est Esh Shachor al Esh Lavan, du feu noir sur une flamme noire sur du feu blanc. Donc la Torah est du feu. Donc on remarque que même le parchemin, le blanc aussi est du feu. Donc il fait partie de la Torah. Donc il y a le dit et le non dit. Et donc les espaces blancs, tout le blanc qu'il y a dans Sefer Torah, contient aussi, est un enseignement. Et on doit apprendre du blanc. Parfois le non dit contient beaucoup plus d'enseignements que ce qui a été dit. Et c'est comme ça, il en va ainsi de ce que le maître enseigne à ses élèves. Le bon maître, celui qui parle pour que l'élève s'épanouisse, c'est celui qui dit peu, qui dit ce qui est nécessaire. Le maître, quand il enseigne les clés du savoir. Dans un sujet donné, il doit transmettre à son élève l'essentiel, les clés, ce qui va permettre aux disciples d'ouvrir les portes et de pénétrer encore et encore le savoir. Et l'élève va découvrir de lui-même la finalité de la chokhma. C'est le blanc. C'est ça le sens du blanc. Dieu parle avec les lettres en noir, mais ce que Moshe entend, ce que nous devons entendre, c'est pas seulement ce qui est dit, ce qui est pas dit, ce que nous devons nous-mêmes découvrir. C'est le sens du blanc. Le non-dit contient beaucoup plus que ce qui a été dit. Mais ici, la paracha, elle est stouma. Donc on ne peut pas... C'est comme si il n'y a que le dit. Il n'y a que ce qui a été dit. Mais ce que nous devons découvrir, nous n'avons pas accès à cela. Il n'y a pas suffisamment d'espace, de possibilité de nous épanouir pour nous développer, pour arriver à saisir ce qui n'a pas été dit. Donc c'est ça le sens de la paracha stouma. Donc, c'est-à-dire que la Torah, dans cette paracha, contient la fin de la solution. Elle nous dit, contient la fin du tunnel. Si nous sommes dans un tunnel ténébreux, obscur, qui est le début de l'exil, et l'exil va durer, et est-ce que nous voyons la fin du tunnel? Nous savons comment ça va se passer, comment nous devons surmonter, avoir les forces de tenir et de nous en sortir. Elle contient, mais on n'arrive pas à les pénétrer. On n'arrive pas il n'y a pas suffisamment d'espace entre les mots pour que nous puissions épuiser comprendre ce qui n'a pas été dit. C'est ça le sens de Stouma. Et de plus, il est dit, donc c'est ça, que les yeux et les cœurs d'Israël se sont refermés. Rachid rajoute que Yaakov Avinu a voulu dévoiler la fin des temps. Mais non, comment Yaakov peut-il savoir la fin des temps? C'est une véritable énigme. Voilà que Yaakov Avinu lui-même, dans sa vision prophétique, lorsqu'il fait le rêve, il voit l'échelle. Donc, il voit les empires qui vont dominer Israël monter. Il les voit tous monter, les trois premiers montent et descendent. Le dernier monte et il ne le voit pas descendre. Et là, il prend peur. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Al tira avdi Yaakov, ne crains rien. Même si cet empire-là, il monte et il se place jusque parmi les étoiles, c'est moi qui le ferai descendre. Et nous disent les Chachamim, que les commentateurs, que dans l'exil, que de l'exil même, on ne voit pas la fin de l'exil. Il n'y a rien qui peut suggérer que cette situation-là va changer, que le Mashiach peut venir, que le monde peut changer. Rien n'indique que c'est comme si que nous disions que le mouvement des planètes est éternel, perpétuel. Rien ne laisse supposer que ça changera un jour. Il n'y a aucune indication. De l'intérieur, c'est un acte, c'est quelque chose qui va agir de l'extérieur. Donc si c'est ainsi, comment Yaakov Avinu pouvait-il savoir la fin des temps? Comme si il connaît une date, il connaît un événement précis, il donne des clés de ce qui est inaccessible. Comment est-il possible? Alors nous avons vu précédemment, dans la paracha de la semaine dernière, que c'est les parachutes où on parle, où Yaakov rencontre Yosef. Et quand il est dit que quand Yaakov est venu à rencontrer Yosef, Yosef l'a embrassé, est tombé sur ses épaules, et Yaakov a lu le schéma. Alors, est-ce que c'était le temps de la lecture du schéma? Ils n'ont pas le même horaire, ils n'ont pas le même calendrier. Ils tiennent pas il est Mahmir, il lit Kriyat Shema plus tôt, Yaakov il lit plus tard, ou l'inverse. Ils n'ont pas le même horaire. Quel est le sens? Pour l'un, c'est l'heure du Kriyat Shema, et pour l'autre, c'est pas l'heure du Kriyat Shema. Et quand bien même, la Torah, la lecture du schéma, c'est le premier verset, ou le premier paragraphe. Et encore, certainement, quand on dit que Yaakov nous a lu le schéma, c'est le premier verset. Minasam. Donc ça prend quelques secondes. Donc, il n'a pas embrassé. Il écrit le schéma et après, il aurait pu le lire 2 minutes avant. Donc, il y a ici un enseignement. Quel est le sens du Kriyat Shema? Voilà que Yaakov Avinu, il a vécu 22 ans dans la souffrance. Il lui tombait une catastrophe, il lui est tombé dessus. Parmi toutes les épreuves qu'il a eu à subir, la pire des épreuves, c'est la disparition de son fils. Yosef, qui est son prolongement, qui est la réalisation fondamentale de sa maison. Sans Yosef, la maison de Yaakov ne peut pas s'épanouir, ne peut pas se réaliser. Donc il perd Yosef. Bon, il sait qu'il n'est pas mort, il sait qu'il n'est pas vivant, il sait pas une disparition. Donc il perd, il perd aussi l'inspiration, il sait pas où il en est. Il est dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et il en souffre. Il n'accepte même pas de s'en consoler. Et c'est quand il voit son fils qu'il voit la réalisation. Est-ce que cette souffrance avait un sens? Est-ce que cette souffrance avait été une souffrance ou, à présent que on comprend la raison de la souffrance est effacée? C'est ça le sens de Shema Israël. On accepte Israël, c'est-à-dire Shema, on adhère à la foi au Ol Malchut Shamaim, on y adhère, on s'engage. Israël, c'est nous-mêmes, parce que chacun d'entre nous adhère à Israël Saba, à ce que de la maison de Yaakov Avinu qui est appelée Israël Saba. Hachem, qui est la tribu de bonté, l'essence même de la bonté, de la miséricorde. Eloheinu, parfois il nous sanctionne, alors on ne comprend pas toujours en quoi la sanction est bonne, mais viendra un jour où on comprendra la raison des choses. Comme il est dit, Ve'aya bayan, oui, Hashem Echad, Shmo Echad. Viendra un jour où Dieu sera un et son nom sera un. La Gemara demande, qu'est-ce que ça veut dire, un jour viendra où Hashem sera un et son nom sera un. Est-ce qu'aujourd'hui, Chas V'Shalom serait-il, y aurait-il une dualité? Et Dieu ne comprend pas toujours ce qui nous arrive. Quand quelque chose de bien nous arrive, alors une bonne nouvelle, on hérite de quelque chose de magnifique, alors on fait une bracha, Baruch HaTov V'Hametiv. On remercie Hashem pour le bien qu'il nous a octroyé. Si on est sanctionné, alors on dit Baruch Dayan Ahmed. Dieu nous a jugé pour le mieux. Et tout, son jugement est juste, est vrai. Mais on ne sait pas pourquoi il est vrai et juste, et nous on le ressent mal. Alors viendra un jour où on comprendra que ces deux attributs, ces deux facettes de la justice divine ne font qu'un. Et que même le mal a un est positif. C'est ça ce que nous comprenons à la fin des temps. C'est ce que dit Yaakov Avinu. Shema Israël, Hashem Eloheinu. Pendant 22 ans, il a dit Hashem Eloheinu. Tu me juges, j'accepte le jugement, mais je ne le comprends pas. Maintenant que je vois Yosef dans sa plénitude, dans son épanouissement, au sommet, à l'apogée de sa démarche, en haut de la hiérarchie en Égypte, et Yosef tel que, comme étant la continuité de ce que je lui ai enseigné, tel qu'il est, alors Hachem, je comprends que tout ce qu'a fait Hachem, il l'a fait pour le bien. C'est comme si que Yaakov Avinu, alors, à ce moment, dans la rencontre avec Yosef, il est sorti de l'exil et il a déjà pénétré dans le temps de l'éternité. Il est sorti du galout. C'est pour cela que là, donc, et pendant 17 ans, il va prospérer, les 17 ans qu'il va vivre en Égypte sont 17 ans, c'est comme si qu'il vit dans le Gan Eden, pratiquement. Il est dans le contentement et la satisfaction totale. La plénitude de ce sentiment de réussite. Il a réussi sa vie, pratiquement. C'est ce sentiment-là qu'il a. Et c'est à partir de là qu'il a les moyens de transmettre à ses enfants sa propre expérience et leur dire comment on s'en sort. C'est ça, ce que Bikesh les galotes et taquettes. Il a voulu dévoiler la fin des temps parce qu'il est déjà dans cette situation-là de pape. Sa propre expérience. Et Chachamim nous disent, Maase Avot Siman Labanim, ce que les Avot ont subi, ont agi, ont fait, est un, nous devons, les enfants, marcher sur leurs pas, sur les traces, ils nous ont tracé le chemin. Et quand il veut le dévoiler, il voit que ses enfants ne sont pas prêts à l'écouter. Ils ne comprennent pas, parce que cela dépend de l'expérience. Pour comprendre cette sagesse que Yaakov a voulu transmettre, on entend ce que dit Yaakov, mais on le saisit pas, Nistam, c'est Satoum, il a pas pu leur dire, alors il a changé, alors il a voulu dire, en fait, il a voulu dire, quand nous verrons quel est le sens de ce qu'il a voulu dévoiler et ce qu'il a dit. Il a voulu dire quelque chose de global. Que tout le monde peut entendre, que tous entendent la même chose. Mais chacun a entendu ce qu'il a bien voulu entendre, ce qu'il était capable d'entendre. C'est ça la différence qu'il y a entre le message que Yaakov a voulu dire, donner, et ce que les Bnei Israël ont entendu. Et c'est pour cela que tant que chacun entend ce qu'il veut bien entendre, la galoute, elle est là. La vérité absolue ne se dévoile pas. Chacun a un morceau de vérité, une facette de la vérité. Chacun saisit ce qu'il est capable de saisir. Mais parce que chacun est à sa propre dimension. Et que les Shvatim, en l'occurrence, ne se mettent pas chacun à la place de l'autre ou à la place de tout le monde. Yiratzon, que Jehovah nous illumine. Illumine les jours que nous passons, que nous vivons, la période obscure, difficile que nous traversons. Shomarda el tzarotenu, v'yasim ketz, le galut hazeh, v'kabes nitchei Yisrael, galé kevot shamayim alenu. Baruch Adonai le'olam, amen v'amen.